be or not to be. Not to be.
J'ai pas confiance en Mickey. Mickey, c'est quand même une souris qui passe ses journées en slip rouge, avec des gants blancs et des chaussures jaunes. Le seul autre personnage que je connais qui passe du temps en slip et en chaussures, c'est Trevor dans GTA. Donc ça aspire pas confiance. Alors que Donald, lui, il porte une chemise, mais il a pas de culotte. C'est quoi le dress code chez Disney? Ils ont des slips ou ils en ont pas? Il y a des choses que je comprends pas chez Disney. Par exemple, Pluto, c'est le chien de Mickey. Hein, admettons, c'est une souris qui a un chien. Mais Dingo, c'est un chien aussi. Donc pourquoi Dingo, il a le droit de s'habiller et de parler, alors que Pluto, il est toujours à poil à quatre pattes dans une niche? Je sais pas, moi, Dingo, à un moment, je trouve qu'il pourrait dire à son ami Mickey « Écoute, je valorise notre amitié, mais personnellement, ça me choque que tu promènes un de mes frères en laisse. » Je sais pas trop où ils en sont chez Disney au niveau de la lutte pour les droits civiques, mais dans un monde où les animaux ont le droit de parler et de porter des fringues, je vois pas au nom de quoi les souris auraient plus de droits que les chiens. C'est pas correct. Dumbo, un éléphant volant. Y a que moi qui trouve ça pas cool? Non, parce que laissez votre voiture sous un arbre où il y a trois pigeons, et vous verrez déjà l'état de votre pare-brise en revenant. Donc maintenant, imaginez que vous la laissez sous un arbre où il y a Dumbo. Hein? La Belle au bois dormant, c'est quand même un drôle de modèle à présenter aux petites filles. Ma chérie, le premier homme qui essaiera d'abuser de toi pendant que tu dormiras, ça sera lui le bon. Dans Le Roi Lion, pourquoi le seul animal à avoir l'accent africain, c'est le singe? C'est tous des animaux africains! Non, décidément, il y a des trucs que je comprends pas chez Disney.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Siglist.
Ce matin, on va parler de la multinationale qui est actuellement en passe d'avoir le monopole sur l'industrie du divertissement mondial, l'entreprise Disney. Disney, qui par ses nombreux rachats et acquisitions, possède aujourd'hui les droits du catalogue Marvel, de la franchise Star Wars, mais aussi d'Indiana Jones, les droits d'exploitation de Miyazaki en dehors du Japon, des Muppets, des studios Pixar. En 2016, sur les 20 films les plus vus, 7 provenaient des écuries Disney. Et ça ne semble pas près de ralentir. La semaine dernière, lors d'un salon consacré à l'univers Disney, la marque aux oreilles de Mickey a annoncé 20 films à sortir sur les 3 années à venir. Cars 3, Les Indestructibles 2, Le Monde de Ralph 2, Thor 3, Avengers 3 et 4, Star Wars épisodes 8 et 9, et puis puisque vous en voulez encore, un Star Wars sur la jeunesse de Han Solo, Mulan avec des vrais acteurs cette fois-ci, Le Roi Lion avec des vrais animaux, une suite à Mary Poppins, un reboot de Dumbo, un Toy Story 4, une Reine des Neiges 2. Allez, je m'arrête, j'en peux plus. Mais pourtant, j'ai pas tout dit. Jamais dans l'histoire du cinéma, on a assisté à un tel raz-de-marée culturel et économique. Quand on pense qu'il y a peu, cette firme était menacée de banqueroute, comment est-on passé d'une entreprise qui s'est fait connaître avec une petite souris sur un bateau à vapeur à la World Company du blockbuster? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre durant la prochaine heure. À mes côtés, celle qui attend le début de ses vacances pour chanter « Libérée, délivrée », Sophie Hoffman.
J'ai tellement hâte. Bonjour Frédéric.
Bonjour Sophie. Alors, vous allez faire le portrait de qui ce matin?
Eh bien, ce matin, je vous présente Alexia Rayard. Elle est fan de Disney, évidemment.
Ah, évidemment. Alors, comme chaque matin, nous sommes accompagnés de deux experts. Alors, le premier va sûrement vous dire quelque chose parce qu'il était déjà avec nous hier pour évoquer le maître Miyazaki. Gerson Bolu, bonjour.
Bonjour, merci de me réinviter.
Mais merci à vous de revenir.
Voilà.
Donc vous écrivez en ce moment, vous êtes donc journaliste spécialisé dans l'animation et vous écrivez en ce moment un livre sur la vie de Disney et ses films, co-signé avec Romain Dosnois. Ce livre paraîtra en mars 2018 aux éditions Inis, dans la même collection que MOOC sur le studio Ghibli auquel vous avez contribué.
Tout à fait, et il sortira en même temps, il paraîtra en même temps qu'un concert au Grand Rex qui célébrera les 80 ans des films d'animation de Disney.
Oui, en mars 2018.
En mars 2018.
À nos côtés également, un autre revenant, que l'on est très heureux de retrouver, Laurent Vallière, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Alors vous êtes producteur sur France Musique et France Info, auteur de cinéma d'animation La French Touch aux éditions La Martinière, et ensemble on remontera aux sources de Disney, on essaiera de comprendre qui était réellement Walt Disney et quel était son objectif en développant sa compagnie avec son frère Roy. On parlera bien évidemment des films d'hier jusqu'à ceux d'aujourd'hui, des périodes d'instabilité économique de Disney, puis de sa résurrection jusqu'à nos jours. En gros, comment Mickey a laissé les commandes à Picsou? On rappelle aux auditeurs que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux.
Et vous êtes de plus en plus nombreux à réagir à l'émission, on est ravis. Continuez avec le hashtag BlockFI.
Mesdames et messieurs, il est 11h09, vous écoutez Blockbuster. Cette émission est réalisée par Céline Hila, préparée par Marine Beccarelli, Jeanne Paravert et Chloé Brassière. La programmation musicale est signée Thierry Dupin et à la technique aujourd'hui, Florent Beauvalet et Jean-Noël Vélan.
Et parce que tu t'es montré si gentil pour une pauvre vieille, je partagerai un secret avec toi. Ce n'est pas une pomme ordinaire, c'est un fruit qui exauce les vœux.
Elle exauce les vœux ?
Oui. Un morceau et tous tes rêves les plus chers se réalisent.
C'est vrai ?
Oui, jeune fille. Allons, fais un vœu. Et croque-moi ça.
Vous avez bien évidemment reconnu un extrait de Blanche-Neige, hein, qui est sorti aux États-Unis le 21 décembre 1937. Mais avant cela, Gersaint Bolu et Laurent Vallière, est-ce que vous pouvez nous raconter comment est née l'entreprise Disney ?
Oh, Laurent Vallière. Ça remonte à la toute jeunesse de Walt Disney. Lui, il est né avec le siècle, à peu près 1901. Et à 20 ans, il décide de monter à Kansas City pour créer... Bon, le dessin l'intéresse depuis toujours. Il a fait une école à Chicago, où il est né. Et depuis toujours, donc c'est quelque chose dans lequel il veut travailler. Le cinéma apparaît et il va d'abord commencer en montant une boîte qui fabrique des spots des publicités pour le cinéma. Et en fait, très vite, à 20 ans, il crée une première série très novatrice qui s'appelle Alice Comedies. C'est un peu l'ancêtre d'Alice au Pays des Merveilles parce qu'il est un des premiers à mélanger un personnage en prise de vue réelle, une petite fille qui s'appelle donc Alice, qui va évoluer dans un univers en dessin animé. Et de fil en aiguille, il va comme ça connaître des succès alors que autour de lui, il y a d'autres réalisateurs de dessins animés. Le dessin animé dans les années 20 est en train de naître aux États-Unis. On est en train d'en faire une industrie. Il y a Félix le Chat, il y a Betty Boop qui est fabriqué par les Fleischer à New York. Lui s'installe sur la côte ouest. C'est très novateur à l'époque d'ailleurs d'aller sur la côte ouest pour la production cinématographique. Et de fil en aiguille, il va comme ça créer un autre personnage qui va être Oswald, un personnage avec un petit lapin qui va connaître également un grand succès.
Oswald, le lapin chanceux, je crois.
Exactement. Et bon, c'est des histoires comme ça, 5 minutes, très courtes. Il va apprendre une vraie leçon avec les histoires d'Oswald le Lapin. Outre que ça connaît un succès énorme, il va se faire voler le personnage par le distributeur qui un jour le convoque à New York en lui disant « C'est très bien tout ce que vous faites, je reprends, ce sont mes billes et puis c'est moi qui vais les fabriquer, les dessins animés de Oswald. »
Et Disney a récupéré les droits il y a très peu de temps et le personnage est intervenu dans un jeu vidéo, je crois que c'est Epic Mickey, voilà, produit par Warren Spector, je crois.
Ouais, et vous parlez de Picsou. C'est là que naît, on va dire, l'oncle Picsou de Walt Disney. C'est qu'il va se dire, la prochaine fois, je vais pas me faire avoir. La prochaine fois, je vais créer un personnage, Mickey. Alors, on sait pas très bien si c'est lui qui l'a dessiné, le personnage de Mickey, ou si c'est son compère, Hub Ivers, qui était quand même un petit peu plus talentueux en termes de dessin, il faut bien le dire, et à qui on devra les premiers dessins animés vraiment formidables de chez Disney. Mais en tout cas, il va se dire, désormais, je vais créer ma société et je vais la faire fructifier. Il va être le premier à créer ce qu'on appelle le merchandising, par exemple, à créer des... Donc ça sera en fait un an plus tard, donc il va créer le personnage de Mickey, il va créer des plein de petits goodies, comme on dit, avec cette effigie. Et en fait, de fil en aiguille, il va connaître un tel succès et à chaque fois, l'argent qu'il va récolter, il va le réinvestir. Et dans les années 30, on va assister... il va se mettre à créer des courts-métrages qui vont d'une certaine façon préparer Blanche-Neige et les Sept Nains. Et chaque court-métrage sera une façon d'explorer un nouvel univers. Par exemple, comment on fait des dessins animés en couleur.
Oui, parce que jusqu'à maintenant, tout était en noir et blanc, il faut le rappeler.
Exactement. Ou comment, par exemple, on va utiliser une caméra qui s'appelle la caméra multiplane, qui est une invention de Ubiverse chez Disney, et qui est une caméra qui permet de faire, en fait, qui permet de donner une profondeur de champ incroyable lorsque vous faites évoluer un personnage dans un décor. Il va inventer comme ça plein de techniques. Il va aussi inventer tout simplement le storyboard, c'est-à-dire on pourrait dire d'ailleurs qu'il invente un peu la taylorisation du dessin animé. Et tout ça aboutit en 1937 avec ce fameux long métrage qui est une vraie révolution. On vient d'entendre l'extrait, Blanche-Neige et les Sept Nains, parce qu'objectivement, à l'époque, personne ne pensait qu'on allait pouvoir faire venir des gens, des spectateurs d'une salle de cinéma et qu'ils allaient croire pendant une heure et demie à ce qui allait bouger en dessin devant devant leurs yeux. Et ça sera un énorme succès.
Alors il est 11h14 et aujourd'hui, vous l'avez entendu, on parle de l'Empire Disney et de sa naissance. Dans quelques instants, nous parlerons des films Disney qui ont su plus ou moins évoluer avec l'air du temps. Mais avant cela, nous allons écouter Luis Prima avec I Wanna Be Like You.
Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cub, and stroll right into town and be just like the other men. I'm tired of mugging around. Oh, ooby-doo, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you. You see it's true. An ape like me can learn to be human too. Try to kid me, man cub. I made a deal with you. What I desire is man's red fire to make my dream come true. Now give me the secret, man cub. Come on, clue me what to do. Give me the power of man's red flower so I can be like you.
C'était I Wanna Be Like You de Luis Prima.
Blockbuster. Frédéric Sigrist. Sur France Inter.
Alors, ce sera quoi, maître?
C'est sérieux? J'ai droit à trois souhaits et je peux te demander n'importe quoi.
Quasiment, il y a un ou deux alter ego, deux ou trois, c'est quoi même?
C'est-à-dire?
Règle numéro un, je ne peux assassiner personne, Pierre. Laisse tomber. Règle numéro 2! Je ne peux malheureusement pas obliger les gens à tomber amoureux. Mouah! Petit canaillou, va! Règle numéro 3! Désolé, mais je ne ressuscite pas les morts. C'est un manque de savoir-vivre. Je trouve cette égoutte!
Mais à part ça, c'est du tout cuit.
Le génie d'Aladin. Aladin qui est sorti en 1992. Alors nous sommes toujours en compagnie de Gerson de Bolu et de Laurent Vallière. Et j'ai une question pour vous, Gerson de Bolu. J'ai lu quelque part que Blanche-Neige, le premier film de Disney, était aussi le film, et ça c'est un peu glaçant quand on le dit, le film préféré d'Adolf Hitler.
Oui, effectivement, il avait été très impressionné, et à juste titre, par ce film qui a été une révolution dans l'histoire du cinéma. Tout court, hein, pas que du cinéma d'animation, bien entendu, puisque premier long métrage en couleur et sonore de l'histoire. Et Adolf Hitler, effectivement, l'avait présenté lors d'une projection privée en Allemagne devant Goebbels, Joseph Goebbels, et ils avaient été tous les deux très marqués et souhaitaient importer cette qualité-là dans l'animation allemande, qui à l'époque était encore... pour le moins balbutiante. Et il avait même commencé à dépouiller le film en faisant une sorte de montage tronqué et tout à fait illégal, ce qui avait mis Walt Disney hors de lui. Et l'ironie du sort, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, Walt Disney a participé de son gré à l'effort de guerre en faisant des courts-métrages de propagande où on voit notamment, il avait reçu un Oscar, un court-métrage avec Donald qui se fiche ouvertement de la tête d'Hitler.
D'accord. Et alors après, après Blanche-Neige, c'est évidemment Pinocchio, Fantasia. Hein, Laurent Vallière, oui. Ils enchaînent sur quoi en fait bon, après
ils vont enchaîner. Il a trouvé qu'il fallait 3 ans pour faire. En fait, il apprenait en marchant. 1,5 million de dollars, ça a coûté le film Blanche-Neige. À l'époque, c'était le plus gros investissement culturel des États-Unis. Enfin, c'était un truc de fou. Et ils s'en sont rendus compte, donc il fallait 3 ans pour faire le film. Donc ils vont mettre en chantier 3 films en même temps, qui sont Bambi, Pinocchio et Fantasia. Et puis quand ils vont avoir un échec avec Fantasia, qui sera un film très ambitieux, musique classique, voilà, avec des effets sculpturaux qui font penser un petit peu à la peinture en mouvement.
C'est un tout petit peu trop en avance sur leur temps, justement.
Oui, et ben il va imaginer encore un troisième truc, oncle Picsou. Il va se dire, mais finalement, Blanche-Neige n'a pas vieilli. Il y a toute une nouvelle génération d'enfants qui ont 7 ans et qui, à 7 ans, n'ont pas vu le film. Et si on le ressortait ? Et ça va être un carton incroyable. Et c'est comme ça que jusque dans les années 80, avant que la VHS arrive et que la vidéo arrive, Disney gardait précieusement des copies de leurs films chez eux. Et tous les 7 ans, ils ressortaient un Blanche-Neige, un livre de l'Agen, etc. Et ça va comme ça remplir les poches de la multinationale pendant de très longues années. Et alors, il va y avoir quand même un casus belli, c'est dans les années 41, va y avoir une grève aussi au Disney, parce que je parlais de taylorisation, au bout d'un moment, quand même, les animateurs on en a un peu marre, et surtout que la mauvaise idée et la mauvaise habitude que va prendre Walt Disney, c'est qu'en fait, c'est Michel Oslo qui dit ça, le créateur de Kirikou, lui, il n'avait pas envie d'aller travailler, dit-il, dans une multinationale qui cache le nom de ses réalisateurs. Quand vous allez voir un Disney, il y avait écrit Walt Disney présente. Et le nom du réalisateur, on le voyait jamais. Et en 1941, il va y avoir une grosse grève au studio Disney. Disney va un peu s'éloigner du studio et son prochain plus gros projet, ça sera de créer Disneyland. Ça sera ça, sa prochaine étape. Et c'est ça qu'il va faire, en fait. Il va rentrer à la fois dans la production télé, il va faire des émissions télé, Le Monde Merveilleux de Walt Disney, qui ne seront pas forcément des dessins animés, mais qui seront des documentaires, où à chaque fois, Walt Disney présente pendant 2 minutes le documentaire, et il va créer Disneyland. Et au fur et à mesure, comme ça, il va créer tout un environnement.
Environnement, oui. Et d'ailleurs, il faut dire que Walt Disney avait une défiance totale des syndicalistes. Il considérait que c'était des agents communistes introduits. Bah,
et même, dans un très bon livre, très informé, il raconte qu'il faisait partie des indicateurs pendant la chasse aux sorcières contre les communistes sous le macartisme. Hein. Très clairement, tous les gens qui ont été à grève, il les a virés. Hein. Y a des gens très très talentueux comme Grant Natwick, qui a été l'animateur de Betty Boop et qui fut l'animateur de Blanche-Neige. Il n'a pas survécu à la grève. Et en fait, il le faisait de façon très très mauche. Hein. Il envoyait des télégrammes en disant, c'était pas tu prends des clics et des claques, mais c'était à peu près ça. Oui.
Et Disneyland, c'était avant même d'être un parc d'attractions, c'était surtout un endroit où il pouvait gérer ses collaborateurs, ses employés, où il mettait en sorte en fait un environnement dans lequel ses collaborateurs n'avaient pas besoin de sortir. En fait, tout était sur place, comme ça, il les avait tout le temps à côté de lui.
Et en plus, qu'il a fait avec ce qui est très intéressant, c'est que lui, il comparait presque la fabrication d'un dessin animé à la fabrication de Disneyland. Il a inventé un mot. Vous savez, ces fameuses attractions à Disneyland qui marquent vraiment il a inventé un mot, c'est les imagineurs. C'est-à-dire que pour créer une attraction à Disneyland, C'est comme s'il demandait à des ingénieurs de créer un storyboard. Il fallait à tout prix mettre en musique et écrire sur le papier la sensation que devait ressentir le visiteur. Et donc, en fait, toutes ces attractions ont beaucoup de succès parce qu'effectivement, elles étaient complètement scénarisées.
Ce qu'on peut peut-être préciser simplement par rapport à cette grève, c'est que c'est vraiment très important, c'est une étape importante dans la vie de Walt Disney. Il a vécu ça comme un coup de poignard, ça a été une trahison de la part de ses employés, parce que lui, il avait un côté très, on dirait paternaliste, mais c'était le patron à l'ancienne, il estimait que ses employés, c'était une grande famille, et il ne s'est pas du tout attendu à cette grève, et par la suite, il perdra un petit peu ce qu'il avait... Peut-être il avait péché par naïveté, peut-être.
Alors, comme chaque jour, l'équipe de Blockbuster est allée à la rencontre des gens pour savoir quel film de Disney les avait le plus marqués.
Tout le monde veut devenir un cat, parce que t'un chat, quand il est cat, retombe sur ses pattes.
J'adore les voix de Disney.
Ce rêve bleu.
Le livre de la jungle, le Mowgli élevé par des animaux, Bagheera la panthère noire, Balou de l'ours.
C'est la marche des éléphants.
J'aimais beaucoup l'univers d'Aladin.
Prince Ali, ça c'est bien lui, Ali Ababa.
À Disney, oui, c'est chouette, c'est un peu les trucs de notre enfance quand on était petit, ça sortait toujours à Noël.
Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais.
Sous l'océan, et après je sais plus les paroles.
Libéré, délivré. Malheureusement, avant je la connaissais par cœur, mais maintenant je m'en souviens plus.
Pour toi, l'étranger ne porte le nom d'homme. Et puis, etc.
J'aimais bien La Belle au Bois dormant, j'aimais bien Blanche-Neige et les Sept Nains.
Au matin de ta vie sur la planète.
Hakuna Matata, quelle phrase magnifique.
J'aimais bien Pinocchio, Bambi, La Belle et la Bête.
L'histoire éternelle touche de son aile La Belle et la Bête.
Il y a des stars du R&B qui sont cachées dans la population. Gerson, Olu, votre Disney préféré à vous, c'est lequel?
Je dirais peut-être Fantasia.
Fantasia.
Fantasia, parce qu'il y a quelques années, j'aurais dit certainement Le Roi Lion, parce que j'ai grandi avec Le Roi Lion, mais en me replongeant et avec un peu de recul dans la riche filmographie de Disney, je dirais Fantasia, parce que justement, je suis grand amateur de musique classique. Effectivement, le film n'est peut-être pas parfait, il y a des segments inégaux, mais c'était extrêmement novateur et ambitieux pour l'époque, au point qu'on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais Disney, à l'époque, souhaitait en faire un Fantasia chaque année. Chaque année, il voulait qu'il y ait un deuxième, un troisième, etc., en recyclant certains des segments. Ça a été un tel flop qu'il a dû y renoncer. Et c'est son neveu Roy E. Disney qui, en 2000, a fait Fantasia 2000 pour rendre hommage un petit peu à cette volonté-là de son aïeul. Mais oui, ça reste effectivement mon Disney préféré.
Et vous, Laurent Varry ?
J'hésite. Évidemment, il y a Mary Poppins quand même, 64, parce que... C'est pas un dessin animé à proprement parler, puisque c'est un film en prise de vue réelle. Mais moi, je dois dire que la séquence, vous savez, où Julie Andrews, dans le rôle de Mary Poppins, emmène les enfants dans un parc d'attractions, et que tout d'un coup, les chevaux se détachent du manège, et que tout d'un coup, on rentre dans ce dessin animé, moi, c'est un truc qui m'a toujours fait rêver, vraiment. Un truc vraiment d'une beauté incroyable.
Et qui préfigure des films comme Qui veut la peau de Roger Rabbit, bien des années plus tard.
Voilà, c'est ça, ce mélange vraiment parfaitement réussi. On sort de la réalité, on rentre dans le dessin animé. Ouais, c'est très joli.
Et alors, est-ce que le fait que la transmission à ses enfants passe aussi, est-ce que c'est ça qui explique le succès de Disney, le fait qu'on puisse passer, voilà, regarder le film en famille et que le Disney qu'on a connu, ça puisse devenir aussi le Disney de ses enfants. Est-ce que c'est uniquement
c'est
ça?
C'est des films totalement effectivement générationnels, c'est-à-dire que vous montrez encore Bambi aujourd'hui à un enfant de 5 ans ou même un peu moins, même s'il y a cette fameuse scène qui a fait pleurer des dizaines de générations avec la mère qui est tuée hors champ.
Qui est finalement moins choquante que celle du Roi Lion.
Tout à fait, mais le fait de ne pas le voir, justement, fait galoper l'imagination et finalement est peut-être plus frappante et plus mémorable que celle du Roi Lion, même si la scène est réussie. Mais tous les films Disney, à deux, trois exceptions près, comme les films un peu mineurs qui ont été faits pendant la Seconde Guerre mondiale, comme Saludos Amigos, par exemple, on peut les voir aujourd'hui, ils n'ont pas pris une ride. Ils sont toujours Pinocchio aujourd'hui, il reste un sommet graphique, c'est magnifique. Les auteurs de cette époque-là, les animateurs, les fameux Neil Holman, c'était vraiment la quintessence de l'art Disney.
Ça va, petit ?
Oui, je crois.
T'as failli mourir ?
Je t'ai sauvé. Enfin, Pumba m'a aidé un peu.
Merci, c'est gentil.
Hein ? Où tu vas ?
Nulle part.
Hein ? Il a le cafard.
Il a pas de cafard dans le désert.
Non, je veux dire, il est déprimé.
Oui, mais même... Quel mal te ronge, petit ?
Rien ! C'est lui, le mal qui ronge ! Le mal qui ronge ! Alors, d'où tu viens ?
Qu'est-ce que ça peut faire ? Je peux plus y aller.
Oh ! T'es hors la loi ! Et ça tombe bien, nous aussi !
Qu'est-ce que t'as fait, petit ?
Une chose épouvantable, mais je peux pas en parler.
Tant mieux, ça ne nous intéresse pas.
Vous écoutez France Inter, il est 11h29, nous sommes toujours en compagnie de Gersande Bolu et de Laurent Vallière, et c'est l'heure du questionnaire Rain Man. Sophie va vous donner des chiffres, oui. Mais il y aura trois propositions de réponses. Alors attention, il peut parfois y avoir plusieurs bonnes réponses ou pas, c'est un petit peu comme elle veut.
Allez, on commence avec le 68. Est-ce que c'est le nombre de taches de Perdita dans les 101 Dalmatiens ? Est-ce que c'est en mettre la taille des cheveux de réponse ? Ou est-ce que c'est le nombre de visages différents utilisés pour animer Jack de l'étrange Noël de Monsieur Jack ? À votre avis, 68.
Ah, je dirais c'est le nombre de visages de Jack pour animer l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais parce que c'est pas de l'animation, c'est des marionnettes, quoi.
Alors, il y en a eu 400, et c'est le nombre de taches de Perdita. Et oui. Oh, et pour les cheveux de réponse, ils font 21 mètres. C'est précis. On continue avec le 1. Est-ce que c'est en millions le nombre de fleurs plantées chaque année dans les parcs Disney à travers le monde ? Est-ce que c'est en tonnes le poids minimum des chars qui ont été fabriqués pour la nouvelle parade ? Ou est-ce que c'est en milliards de dollars l'investissement de Disney pour créer un bracelet connecté à utiliser dans le parc ? À votre avis, le 1. Un million, un milliard, une tonne.
Piège.
Un milliard pour développer un bracelet, c'est un bracelet, c'est très étrange ce bracelet quand même.
Ça sert pour payer les achats.
C'est pour améliorer votre expérience dans le parc, mais c'est pour vous fliquer pendant tout votre parcours dans le parc.
Aussi.
C'est un truc assez effrayant, je trouve. Ils sont capables de dépenser un milliard pour ça, oui.
Et ben ils en ont été capables,
c'est
effectivement.
C'est affreuse histoire quand même, objectivement.
En même temps, Apple l'a mis en place avec ses téléphones à une échelle encore bien plus importante.
Et c'est oui, on peut quand même désactiver, je crois, la localisation, mais peut-être que vous... Je ne sais pas. En tout cas, non, mais ce qui est effrayant, c'est qu'il vous donne un bracelet en vous disant « Regarde comme il est beau », vous savez, c'est comme les... Et en fait, c'est complètement empoisonné, enfin, bon, bref.
Et c'est aussi le nombre de fleurs plantées chaque année.
Un million de fleurs.
Ouais. Un peu de poésie,
voilà,
ça fait du bien.
Voilà, c'est ça. Le 13 maintenant, est-ce que c'est le chiffre qui fait peur à Bernard, de Bernard et Bianca, atteint de triskaidekaphobie ? Est-ce que c'est ça ?
Qu'est-ce que c'est ?
Est-ce que c'est le nombre d'Oscars d'honneur reçus par Walt Disney pour Blanche-Neige et les Sept Nains ? Ou est-ce que c'est en millions le coût de rachat des studios Marvel par Disney ?
Ah non, 13. Marvel, c'était 4 milliards de dollars.
Exactement,
on en est très loin,
4 milliards, bravo.
Et les Oscars pour Blanche-Neige, c'était 7, puisque c'était quand même les Sept Nains, justement.
Donc il reste quoi,
la triskaïdécaphobie.
C'est quoi, alors ?
Bah, c'est la peur du chiffre 13.
D'accord,
dont serait atteint Bernard, apparemment.
Oui. Très bien.
Allez, pour finir, 1923, est-ce que c'est l'année de création de la Walt Disney Company ? Est-ce que c'est l'année où Ariel est devenue la première princesse Disney après la Belle au Bois Dormant ? Ou est-ce que c'est le nombre de fois où Fred peut chanter en boucle libéré, délivré avant de tomber dans les pommes ?
Troisième,
oui, je dirais.
La troisième et la première, bravo à vous.
Bravo. Dans Blockbuster, on gagne des chansons et vous avez gagné Freda, le gardien des fleurs.
Les ancêtres ont envoyé un petit lézard pour me sauver.
Hé, hey, dragon, il n'y a pas de lézard, nous ne parlons pas la même langue.
Des fleurs et la tête chenue, il veille au fond des cœurs, le gardien des fleurs. À l'ombre des fleurs, là, sous les cerisiers, au printemps, il demeure le gardien des fleurs, le gardien des fleurs, le gardien des fleurs. Sous la brume légère, les pas des promeneurs, les restes de l'hiver, le retour des fleurs. c'est d'ici d'ailleurs qu'il effeuille les pleurs. Le gardien des fleurs, le gardien des fleurs, le gardien.
C'était Freda dans Blockbuster sur France Inter. Alors nous sommes toujours en compagnie de Gersan Bolu et Laurent Vallière pour parler de l'Empire Disney. Dans un instant, nous parlerons des recettes Disney pour dominer l'industrie du divertissement ou que ce soit. Mais pour l'instant, c'est l'heure du portrait de geek par Sophie Hoffman.
Alexia Rayard a 26 ans. Influencée par ses deux grandes sœurs, elle découvre Disney avant même de savoir parler. Son premier dessin animé, qui restera de tous son préféré, c'est Blanche-Neige et les Sept Nains.
Je l'aimais bien parce qu'il me faisait vraiment passer par toutes les émotions. Même si la sorcière me faisait peur et me donnait des cauchemars, je le regardais tout le temps.
Blanche-Neige, c'est aussi la figure mythique de la princesse. Sauf qu'Alexia n'a rien d'une héroïne de Disney. Incrédule, maladroite, gaffeuse, indépendante et absolument jamais à l'heure, la princesse est parfaitement ce qu'elle n'est pas. De quoi renforcer encore plus l'envie de lui ressembler.
La princesse, elle a toujours le mec qui lui va, quoi, à la fin. Elle a toujours le mec qui est parfait pour elle. Et au final, une princesse, elle n'a pas trop de problèmes. Une fois que le méchant il est mis... hors d'état de nuire, il n'y a plus trop de problèmes. Chez les princesses, elles sont toujours heureuses pour toujours avec leur prince et elles ont beaucoup d'enfants. C'est quand même une belle vie, je trouve.
Être toujours passionnée de Disney, passer l'adolescence est devenu curieux, mais Alexia s'en fiche. De la coque de portable au fond d'écran, en passant par les visites à Disneyland, les avant-premières de films, les chansons, elle connaît tout de ce géant de l'animation. Pour autant, rien à voir avec l'enfance, mais plutôt une sorte de médicament qui soigne le vague à l'âme.
La vie, ça peut être morose, goutigné, ça peut être ces choses-là. Et du coup, les Disney, ils permettent de s'évader un petit peu, de voir la vie avec des plus belles couleurs. Moi, en tout cas, je sais que ça me fait du bien. Ça me fait justement déconnecter. Ça me fait penser à autre chose, ça me fait m'évader. Et je pense plus à ce qui me dérange dans ma vie réelle.
Dans sa vie réelle, Alexia est chef de projet dans une grande agence de publicité. Et sa candidature ne doit rien au hasard, puisque l'agence travaille pour Disney. Maligne, elle touche ainsi du doigt l'objectif professionnel rêvé, travailler pour un de leurs dessins animés. Cette passion, c'est aussi une culture, un patrimoine qu'elle pourra transmettre à ses enfants, comme d'autres transmettraient une passion pour la musique ou la danse.
Dans mon iPhone, j'ai que des chansons Disney. Enfin, c'est pas sur 1500 chansons, je dois en avoir 800, c'est que des chansons Disney. Je les connais toutes par cœur, je suis vraiment incollable sur les chansons et sur les dessins animés Disney.
Preuve par l'exemple.
J'ai souvent rêvé d'un lointain pays où tous les gens m'aimeraient comme le plus précieux des amis.
Mille échos de la joie montent à l'infini.
et leur voix chante en moi. Tu es né pour cette vie.
Alexia aime le violet, elle voue un culte au film Matrix, elle est autant inspirée par Aung San Suu Kyi que par son amoureux, Louis. Dans les moments difficiles, elle se répète souvent « Hakuna Matata ». Et ce qu'elle voudrait plus que tout, c'est ne plus se soucier de l'argent pour être mère au foyer et s'occuper de ses dizaines d'enfants. Elle leur passerait des Disney évidemment, mais David Bowie aussi serait de la partie.
Merci Sophie, Alexia a l'air extrêmement complexe.
Oui, mais elle est très sympa.
Alors, est-ce que finalement, face à l'Empire Disney aujourd'hui, Laurent Vallière, Gerson de Bolu, est-ce qu'on n'est pas un petit peu comme le personnage de Jim Carrey dans le Truman Show ? Dire un monde complètement aseptisé où on a des musiques comme ça sirupeuses pour qu'on puisse être de bonne humeur.
Bon, c'est vrai que ça fait penser à des choses de sirupeuses dès qu'on va voir des films de Disney. Ce qui m'angoisse un peu, parce qu'on entendait une geek qui chantait tout à l'heure. Vous avez fait un micro trottoir. Les gens connaissent par cœur les chansons. Moi, j'ai des amis.
Ça c'est déjà bien.
Et ça c'est bien dire. Leur fille de 3 ans chante chez elle des chansons pendant 6 mois, ils savaient pas du tout qu'est-ce que c'était cette chanson. Ils avaient interdit à cette fille de voir des films de Disney. Ils voulaient pas du tout qu'elle rentre dans cet univers sirupeux. Et le problème de Disney, c'est le royaume de Disney finalement, c'est la cour de récré. Et en fait, j'aurais dit, mais en fait, ce qu'elle chante là, c'est délivré, c'est la Reine des Neiges. Ah bon, mais qu'est-ce que c'est? Et donc, en fait, vous pouvez essayer d'éduquer votre enfant, de la faire grandir en lui évitant d'aller voir tous les films de Disney. Malgré tout, c'est plus fort que toi, Disney. En fait, c'est ça. Et c'est ça qui m'angoisse énormément. C'est que aujourd'hui, ils ont créé une sorte d'univers, d'écosystème presque, où on peut vivre uniquement où on ne peut pas faire abstraction de ces choses-là. Après, bon, les films véhiculent quand même parfois des choses un peu plus intéressantes. Moi, je sais que La Belle et la Bête m'avait assez surpris quand c'était sorti dans les années 90, parce qu'il y avait un tout petit peu de sexe, il y avait un petit peu de piment dans ce qui, pas de sexe, mais il y avait un peu de piment dans
oui,
ce qui
c'était léger.
Oui, c'était léger. Mais c'était pas complètement plat. Voilà, mais c'est vrai qu'ils ont une responsabilité et ils arrivent à faire de leurs films à chaque fois des contes universels et on n'arrive pas à faire en sorte que ces gosses ne regardent pas ça, quoi.
Gerson de Bolu ?
Je pense que Laurent pensait peut-être aussi au Bossu de Notre-Dame avec Esmeralda qui avait un fort potentiel érotique.
Qui a été fabriqué en France.
Voilà, tout à fait.
Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs, parce que tout d'un coup c'était devenu moins.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aussi bien La Belle et la Bête, le Bossu de Notre-Dame avec une fin révisionniste par rapport au livre, que Alice au Pays des Merveilles ou Peter Pan, aujourd'hui quand on cite ces noms, on pense au film Disney. On pense pas au roman d'origine, ce qui effectivement est quand même assez dommageable parce que la plupart du temps, les gens découvrent avant tout les Disney plutôt que les livres. Ou Pinocchio, bien sûr, qui était avant tout un conte. Ce qui est fort effectivement avec ces films Disney, c'est qu'ils ont fini par complètement occulter ces œuvres-là.
Ils sont devenus des contes.
Buzz l'éclair à Star Command, est-ce que vous me recevez ? Star Command, répondez, est-ce que vous me recevez ? Pourquoi ne répondent-ils pas ? Oh ! Mon vaisseau ! Bon sang, ça prendra des semaines à réparer.
Journal de bord, Buzz l'éclair, année 4072. Mon astronef a quitté la trajectoire du secteur 9. Je me suis écrasé sur une étrange planète. L'impact a mis fin à mon hypersomnolence. Le sol semble pour le moins instable. Impossible de savoir si l'air est respirable et il n'y a pour le moment aucun signe de vie intelligente en vue.
Coucou! Ouya! Bam! Et quoi, je t'ai fait peur? Je l'ai pas fait exprès. Non, pardon, salut, cow-boy. Moi, c'est Woody. Et ça, c'est la chambre d'Andy. Voilà, les présentations sont faites. Et entre nous, il y a apparemment un malentendu. Tu es chez moi. Le lit, c'est mon territoire.
L'autorité locale, voilà qui tombe vraiment à pic. Je suis Buzz l'éclair, ranger de l'espace, protection universelle. Mon vaisseau s'est écrasé ici par erreur.
Ouais, il y a erreur sur la comète, parce que ce lit est à moi. Tu es dans mon domaine.
Alors c'était bien évidemment un extrait de Toy Story qui est sorti en 1995 et l'arrivée de Pixar est en fait la planche de salut de Disney.
Il y a peut-être un petit rappel historique juste avant d'arriver à Pixar, c'est qu'effectivement, quand Walt Disney en personne donc, décède à quelques jours de Noël en 1966, ensuite, il va y avoir une longue traversée du désert du studio. On va avoir des films quand même objectivement mineurs comme Bernard et Bianca, Roxy et Rookie,
Taram et le
Chaudron Magique, qui est un film inclassable. Et dans les années 80, il va y avoir vraiment une renaissance grâce à l'arrivée à la tête du studio de Michael Eisner, qui aura une gestion un peu anarchique du personnel, mais qui en tout cas va changer le mode de distribution au lieu d'un film d'animation tous les 4 ans, il va revenir à un film d'animation par an. Et vont naître ainsi La Petite Sirène, Le Roi Lion, Aladdin, La Belle et la Bête. Et il va continuer à faire prospérer l'entreprise et effectivement, ils vont déceler le talent de Pixar, qui est une jeune boîte qui vient de se monter.
Steve Jobs.
Steve Jobs, effectivement, le patron d'Apple, avec un petit génie qui s'appelle John Lasseter, qui a donc qui a fait quelques petits essais. John Lasseter qui avait commencé sur Roxy Rookie avant d'être débarqué. Donc effectivement, l'ironie du sort fait qu'il reviendra par la grande porte. Et aujourd'hui, il est le directeur artistique et de Pixar et de Disney.
Parce qu'en fait, c'est Disney qui, depuis 2006, a racheté Pixar, mais culturellement, on a l'impression que c'est Pixar qui a racheté Disney.
Oui, effectivement, ils ont presque pris le dessus. En fait, il faut savoir que Pixar a failli vraiment partir parce qu'il y avait un gros problème de désaccord entre Pixar et Disney. Ils étaient même sur le point peut-être d'être rachetés par DreamWorks, qui était quand même le grand concurrent de chez Disney. Donc Disney a quand même mis sur la table 7,4 milliards de dollars pour racheter Pixar en 2006. On peut préciser aussi qu'en 2009, il y a Marvel qui a été racheté donc par Disney. Puis en 2010, ils ont racheté Lucasfilm. Ils ont déboursé vraiment de grosses sommes, mais ça a été la poule aux œufs d'or. Et encore aujourd'hui, effectivement, Disney a retrouvé un regain de créativité avec Vaiana, La Reine des Neiges, évidemment, ou Zootopie. Mais sans Pixar, les années 2000 auraient été compliquées pour Disney.
Ah, alors là, on est arrivé à un moment de jeu, évidemment. On va vérifier nos connaissances d'experts sur les chansons des films Disney. C'est le moment du blind test des experts. Alors, on va écouter différentes chansons de Disney. C'est assez facile.
Il y a des tout petits bouts.
Donc, ça y est, des tout petits bouts. Ouais. Vous donnez le nom et on passe à la suivante.
D'accord. Faut être rapide.
Okay, on y va.
Je comprends ce qui se passe. Être face à la perfection, c'est si rare.
C'est pas encore un classique, mais c'est en passe de le devenir.
C'est pas La Princesse et la Grenouille.
Non, c'est alors pas La Princesse et la Grenouille.
Qu'est-ce que c'est cette sonorité?
C'est Anthony Cavanagh qu'on a entendu.
Ouais. Vaiana.
Vaiana.
Ah, oui.
Je vois à vos yeux sans expression.
Le Roi Lion.
Quel fou. Car.
Oh là là là, j'ai ressenti des parties en force. Ouais. Le Roi Lion.
Et quand je retourne un gros caillou,
la loup dans
je sais trouver.
Bon. Très bonne réponse.
Allez, Laurent Vallière.
Mais Laurent Vallière nous l'avait déjà dit, je suis pas très fort en blind test.
Oui.
Et je me rattrape pour hier.
Je donnerai tout ce que j'ai pour partir.
Ariel, la sirène.
Ah oui.
Ah oui, on a vraiment affaire à un expert.
Ouais, ouais, ouais.
Son suivant.
Quand j'étais petit, je commets 4 douzaines de.
Ah, ça, c'est La Belle et la Bête.
Oui,
c'est la chanson de Gaston.
C'est bien, Laurent.
Mais c'est marrant parce que vous savez, moi, je les entends jamais je vais faire le snob, jamais en version française. Et en fait, je découvre les paroles.
Mais
Laurent
Vallière, c'est un excellent alibi.
Ah, ouais.
Voilà. Je suis mauvais à ce jeu parce que je maîtrise bien trop de langues.
Je reconnais pas les paroles.
J'écoute les films en VO, c'est pour ça que je suis mauvais.
Qu'est-ce que c'est que ça, hein?
Hercule.
Quelqu'un l'a vu?
Oui. Une fois.
Bon. Ça sortait du cœur.
Beata Maria.
Le Bossu Notre-Dame, c'est Frollo.
Oui, exactement, le Bossu Notre-Dame. Et on parlait justement de films dans lesquels était véhiculée une sensualité un peu plus prononcée qu'à l'accoutumée. Le Bossu Notre-Dame, ils sont allés très très loin par rapport à ce que Disney a l'habitude de faire.
Mais en fait, ça a été. Je disais tout à l'heure, c'était fabriqué à Paris, mais c'est vrai, c'était à l'époque, dans les années 80 ou 90, où Disney cherchait un studio à l'étranger pour fabriquer ses longs métrages d'animation et ses séries télé. Et ils avaient racheté un studio à Montreuil qui était dirigé par les frères Gaëtan et Paul Brizzi. Et c'est d'ailleurs eux, par exemple Gaëtan et Paul, qui ont dessiné le storyboard du début de Notre-Dame. Et c'est un des seuls films de Disney où vous avez quelque chose d'extrêmement sombre, en clair-obscur. Et le film est effectivement quasiment trop pour les adultes. D'ailleurs, c'est ce que disaient les frères Brizzi quand ils étaient à Disney. Voilà, ils étaient un petit, ils pouvaient pas aller aussi loin qu'ils le voulaient, mais ils avaient réussi dans le Bossu Notre-Dame à insuffler comme ça cette inquiétude au début du film.
Donc, ce que vous êtes en train de dire, Laurent Vallière, c'est que quand on confie du travail à des Français, tout de suite, c'est un peu plus sexuel. Quoi.
Non, c'est-à-dire que l'Amérique, c'est la terre du marketing, quoi. Tout est complètement bordé et il faut que ça soit propre, etc. Donc, effectivement, parfois, dans le cinéma français, on a un peu plus de liberté, on va dire. Les auteurs ont un peu plus de liberté, en tout cas.
Juste pour précision, les frères Brizzi ont également signé le segment L'Oiseau de Feu à la fin de Fantasia 2000, qui est l'apothéose du film et qui rend hommage à Hayao Miyazaki.
Évidemment. Son suivant.
Ah bah ça c'est Blanche-Neige donc.
Oui, évidemment, c'est Blanche-Neige.
C'est ça, je ne vis qu'en français.
Une cloche dès qu'il joue de sa trompette.
Les Aristochats.
Les Aristochats.
Ils sont super Thomas courts, vos
extraits. Et dernier extrait.
Vous êtes des experts.
Il a 103 chapeaux.
Aladdin.
Exactement, c'est Aladdin. Bon, je pense que sans faire les comptes de manière très pointue, je pense que Gersand Bolu a gagné ce blind test. Et vous avez gagné une chanson, Artibella, de Ken Booth et de Ina de Yard.
Si tu te mets à chanter, je te préviens, je te tape.
Artibella. Come on home. Artibella. Artibella, my pretty little darling, please come home to me. Artibella, I saw you with a fella, and I don't like the idea. Artibella, you told me that you love me, there's no one else above me. Artibella, you took all my money, then told me you don't want me. Artibella, you know that I love you, but you still go away. Come back to me, babe, each and every day. La 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 da, Artibella, come on home. Artibella, my pretty little darling, please come home to me. Artibella, you took all my money, then told me you don't want me. Artibella, you told me that you love me, there's no one else above me. Artibella, you took all my money, then told me you don't want me. Artibella, you know that I love you, but you still go away. Come back to me, babe, each and every day. La 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 da, Artibella, Artibella, Artibella. Artibella, come on home.
c'était Artibella sur France Inter.
Blockbuster, Frédéric Sigrist.
I am your father.
Sur France Inter.
Eh oui, Dark Vador qui désormais eh bien, fait aussi partie des princesses ouais. Disney.
Bah, en fait, Disney, il y a 10 ans ou il y a 15 ans, s'est rendu compte qu'ils avaient juste un petit problème. Certes, ils avaient avalé Pixar, mais ils se sont rendu compte qu'ils s'adressaient trop aux petites filles. Et donc, ils ont essayé par tous les moyens de trouver des façons de s'adresser aux garçons. Et donc, ils ont créé des chaînes de télé, genre Disney XD, ils ont créé des séries d'animation pour les gosses. Mais en fait, ils se sont rendu compte que le plus simple, c'était tout simplement de racheter des licences qui, pour le coup, plaisent aux garçons. Donc, c'est pour ça qu'ils ont racheté l'un après l'autre, Marvel, qu'ils ont racheté Star Wars. Et ce qui effectivement permet, enfin c'est du marketing, voilà, qui permet effectivement de s'adresser au plus grand public. Hein.
Alors il y a néanmoins un effet pervers que le grand public n'a pas encore véritablement évalué dans le rachat de ces franchises, c'est que Disney imprime en second plan une politique assez forte sur Star Wars. On a vu, alors c'est plutôt un bienfait, mais une évolution. On a désormais des personnages féminins qui prennent le devant de la scène dans Star Wars. Rey dans le dernier épisode de Star Wars, et puis même dans Star Wars Rogue, c'est aussi un personnage féminin. Mais à contrario, chez Marvel, il y a certaines séries qui ont été mises de côté parce que elles appartiennent à des licences cinématographiques, mm-hmm. appartiennent à d'autres studios. C'est le cas des 4 Fantastiques, qui est la première famille super-héroïque qui appartient à Marvel, qui désormais n'a plus aucun comics parce que les droits d'adaptation cinématographique appartiennent à la Fox. Et Disney a dit non, hors de question de faire de la publicité pour la Fox. Donc la première famille de super-héros inventée chez Marvel a littéralement disparu suite à l'action de Disney.
Ah ouais, bah c'est politique de groupe, quoi, finalement. Disney a aussi racheté une chaîne de télé. Enfin, ils sont développés de façon considérable et ils essayent de développer leur marque.
Ils vendent même désormais des fruits en Inde.
Ah oui.
Ce qu'on peut peut-être dire aussi, c'est que Disney a fini par tourner le dos à son passé, à son héritage. Ils le font fructifier, bien sûr, en ressortant régulièrement en vidéo, etc. Et ils en prennent de grands soins. Mais en abandonnant définitivement, bon, ils disent temporairement, mais enfin pour l'instant, c'est définitivement l'animation traditionnelle, ce qu'on dit la 2D. Leur dernier film, c'était La princesse et la grenouille. Ça n'a pas été un grand succès. Le précédent, c'est La ferme se rebelle, que tout le monde a oublié. Paradoxalement, justement, quand Pixar a pris de l'importance, Disney s'est engouffré dans la 3D en abandonnant totalement la 2D. Au point que John Lasseter, qui est donc l'homme par qui la 3D a permis l'essor avec Toy Story, Millie in Pat, Cars, etc., regrette justement, lui, son intention, c'était pas du tout d'enterrer la 2D, mais le fait est que aujourd'hui, les films Disney ne sont plus en 2D.
Le fait est que quand John Lasseter et Pixar ont racheté Disney, ils ont réouvert le studio 2D qu'ils avaient fermé, et effectivement, La princesse et la grenouille, qui était très novateur à l'époque, parce que pour une fois, il voulait toujours changer les princesses, il avait choisi une princesse de couleur, qui était vraiment chez Disney, hein, jamais vu. Ouais. Et le film, effectivement, s'est planté. Donc, bon, il faut bien dire que le dessin animé en 2D, aujourd'hui, dans le monde, ne marche pas énormément. Et qu'en gros, 80% du box-office au cinéma, c'est que des films en images de synthèse. C'est ça le problème, pour moi, des films de Disney aujourd'hui. C'est qu'en fait, j'exagère un peu, mais les personnages sont assez laids. Et tous les personnages des dessins animés en images de synthèse, on n'arrive pas à des choses très jolies. Et que ce soit Vaiana, que ce soit la Reine des Neiges, vous avez des effets spéciaux absolument fabuleux, mais on peut dire qu'au point de vue de l'animation, c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que les personnages sont laids. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder toutes les princesses depuis 10 ans, se ressemblent. Elles ont exactement le même visage. C'est comme s'ils avaient un squelette et qu'ils le mettaient dans d'autres films.
Je serais peut-être moins sévère que mon collègue Laurent. Il y a des films effectivement qui ne pourraient pas être faits en 2D comme Zootopie parce qu'il y a trop d'animation, c'est trop ébouriffant, ça bouge tout le temps, donc en 2D c'est juste pas possible. Par contre, John Lasseter rappelle qu'en fait c'est pas la technique qui prime, c'est un bon scénario.
Voilà.
C'est-à-dire qu'effectivement Vaiana aurait pu potentiellement être fait en 2D, ça aurait été différent, mais c'est pas la technique qui est le plus important. Voilà,
un Disney, bon scénario. Ça peut être le mot de la fin. Un bon scénario, surtout. Merci à tous. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain pour continuer de parler de héros, mais de héros français. Oui, des héros petits, râleurs ou obèses, amateurs de produits dopants. Demain, on parle bien évidemment d'Astérix. Merci, Gerson de Bolu. Alors, on rappelle que vous allez sortir un livre sur la vie de Disney et ses films co-signé avec Romain Dosnois en mars 2018. Merci, Laurent Vallière.
Merci.
On rappelle que vous êtes producteur sur France Musique et France Info, auteur de cinéma d'animation La French Touch aux éditions de La Martinière. Bonjour Dorothée.
Et bonjour. Alors, bonjour à tous.
Ça va ?
Ça va bien et vous ?
Oui, alors de quoi vous allez nous parler dans le débat de
midi ? Aujourd'hui, je suis sûre qu'on va recevoir beaucoup de réactions d'auditeurs parce que je demande à tout le monde de me dire ce qu'il pense de son patron. La hiérarchie, est-ce qu'il faut s'en affranchir ? L'entreprise libérée est-elle l'avenir de l'entreprise ?
Est-ce qu'on peut la délivrer ? C'est peut-être la question.
C'est ça, libérer, délivrer l'entreprise, exactement, bon, transition.
On travaille nos transitions
sur France Inter. Il y a du boulot, quoi. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Reprenons depuis le début, si vous le voulez bien.